Bonsoir mes frères et sœurs. Oui, c'est une grâce d'être dans la présence du Seigneur. On va faire une première lecture, si vous voulez bien. Dans le livre des Juges, un homme qui priait pas beaucoup. Il priait quand il était obligé. Ça, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Alors, Juges chapitre 15, verset 14. Il faut pas prendre l'exemple de Samson pour modèle, hein. Mais il a prié deux fois dans sa longue vie, avec deux fois où c'est relaté. Juges chapitre 15, verset 14, il est dans un moment difficile. Ses frères l'ont lié. Vous voyez comme quoi des fois il y a des combats. Il y a des combats compliqués dans la ville. Est-ce que vous le savez? Ce sont ses propres frères qui l'ont lié. Juges chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, « Avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et on appela ce lieu Ramas-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Et c'est de là qu'on a appelé cette source En Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Amen. On va faire une deuxième lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 21. Vous savez qu'à un moment donné, Dieu a permis que, comment elle s'appelle, Agar, avec son fils, soit expulsé de la maison. Il y a des choses difficiles dans la vie. Vous le savez. Alors, Genèse 21, verset 14. Je vous encourage à lire ces textes parce que moi je peux vous assurer qu'ils m'ont fait beaucoup de bien. Genèse 21, 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Je le relis, cette phrase. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Je peux le relire, s'il vous plaît ? Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et elle donna à boire à l'enfant. Amen. Une autre lecture. Il n'y a que l'embarras du choix par rapport à ce sujet. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 12, versets 1, 2 et 3. Ésaïe, chapitre 12. Ésaïe, chapitre 12, verset 1er. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée, tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Vous puiserez de l'eau avec joie. Tu puiseras de l'eau avec joie aux sources du salut. Dieu nous connaît. Il nous connaît. Il sait où on en est. Si ça va pas bien, il sait s'il est irrité contre nous parce que ça va pas à Samson et c'était pas un bon pasteur. C'est pas un bon pasteur. Mais pourtant, quand il a crié, vous avez vu ce que Dieu a fait. Mais Dieu voit quand quelqu'un désire avoir la foi. Vous vous rappelez Abraham? Abraham, il a eu ses hauts et ses bas, beaucoup de hauts. Et Dieu lui a dit, parce qu'il voulait marcher par la foi, tu seras une source de bénédiction. Parce qu'il voulait marcher par la foi. Cette parole, vous pouvez la saisir également si vous voulez marcher par la foi. Vous ne serez pas une source de bénédiction si vous marchez comme les païens, ça c'est sûr. Mais si vous vous mettiez à dire, mais moi je veux marcher par la foi, je veux prendre un texte qui, je veux obéir. Vous pouvez faire cette parole vôtre. Dieu peut vous dire, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament, ça? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent, ouais, mais c'est écrit là. Ou alors Dieu l'a dit à Josué, Dieu l'a dit à Moïse, mais moi, il ne me l'a pas dit à moi. Mais dans le Nouveau Testament, ces choses souvent sont dites. Par exemple, quand Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Quand Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu dit, je serai avec toi aux chrétiens? Oui, c'est écrit. Cette affaire de source de bénédiction, c'est Jésus l'a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors, soif de quoi au fait? Alors, j'ai entendu de sa présence. Eh oui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il ajoute? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, ça vaut la peine de se poser la question, mais soif de quoi? Parce que après tout, si vous allez vous attraper le premier pêcheur là, dans la rue de l'URSS, et vous dites, est-ce que tu as soif de bénédiction? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Oui, mais bien sûr. Alors la question, elle pourrait se poser, mais si les païens, même si les païens ont soif de paix, est-ce que vous, franchement, attrapez un païen, n'importe lequel, le plus impie possible, est-ce que tu as soif de paix? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais quelle question bête! Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc si quelqu'un a soif de la présence du Seigneur, est-ce que vous avez soif de la présence de Dieu? Si vous avez soif de la présence de Dieu, vous êtes dans de bonnes voies. Jude, vous savez, Jude, il parle des chrétiens de la fin des temps. Ça fait un peu peur. On lit ce qui est écrit, je vous le lis. C'est au verset 11. Il est dit, ne le cherchez pas. Ce sont des nuées sans eau. Quand Dieu parle des chrétiens, des hommes de la fin des temps, ça fait mal au cœur, vraiment. Des fontaines sans eau. Des gens qui sont, vous le lirez, c'est dans Jude, c'est des gens privés de la grâce de Dieu. Il n'y a rien de pire que de croire. Est-ce que c'est bien de croire en Dieu? Oui, mais ça suffit pas. Il y a des gens qui croient, mais qui obéissent pas. Il y a des gens qui croient, mais ils obéissent pas, etc. Donc, ils se privent de la grâce de Dieu. Quand on est privé de la grâce de Dieu, on est surtout dans les griffes du malin. Privé de la grâce de Dieu parce qu'on ne se nourrit pas. Là, ce soir, on se nourrit. Si vous notez, si vous écoutez, si vous reprenez le CD, voilà, c'est une façon de se nourrir. Des gens qui n'ont pas soif. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez soif de la parole? Vous êtes heureux si vous avez soif de la parole. Mais il y a des gens qui n'ont pas soif, qui cherchent la joie dans les choses du monde, etc. Ou alors qui ont de mauvaises idées, de très mauvaises idées. Et ça, je peux vous dire que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans ce cas de figure. On va le lire dans Jérémie au chapitre 2. On était dans Ésaïe, c'est juste après. Ésaïe, Jérémie. Jérémie chapitre 2 au verset 13, ça fait peur. Et parce que pourquoi? En plus, c'est ce qui se passe dans des multitudes d'églises aujourd'hui. Regardez ce verset. Jérémie chapitre 2 verset 13. En plus, le Seigneur, il explique très bien. Il parle d'un double péché. Il y a du péché, mais des fois, Dieu le voit comme un double péché. Ce qui en est un d'ailleurs. Jérémie 2 verset 13. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous voyez? Ça fait peur, hein? Un double péché, abandonner la source d'eau vive, abandonner la grâce, abandonner ce qu'on est en train de présenter ce soir, c'est-à-dire cette faveur divine, cette approbation de Dieu, d'être attaché à lui. Vous voyez, ils m'ont abandonné. Ça prouve qu'ils ne le connaissaient pas, ça prouve qu'il y a eu un problème. Quand on abandonne Dieu une fois qu'on l'a connu, c'est qu'il y a un gros, gros, gros problème. Ou alors de grosses, grosses, grosses ruses de l'ennemi. Vous vous rendez compte, une source qui coule, on se creuse une mare qui retient pas l'eau, de l'eau vaseuse. Et ça, tu te dis, mais il faut vraiment être aveugle. Oui ou non? Ouais. Mais quand on ne sait pas, quand on ne le sait pas, peut-être qu'on ne croit pas à la bénédiction. Il y a des explications. Moi, je ne veux pas chercher les facteurs de ça ou les éléments. Mais je me dis, quand on fait ça, c'est qu'on ne croit pas dans la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui croit vraiment que Dieu bénit? Dieu bénit. Il y a un verset que j'aime beaucoup, je vous le cite, Ecclésiaste 7, 29, ne le cherchez pas. Ecclésiaste 7, 29, Dieu a fait l'homme droit, mais, vous connaissez la suite? Mais il a cherché bien beaucoup de détours. C'est bien. J'ai dit bien, mais c'est beaucoup de détours en vérité. Il a cherché beaucoup de détours. Alors, un acte de foi, c'est quelque chose de tout à fait simple, c'est quelque chose qui dépend absolument de nous. C'est pour ça que j'ai pris le verset, vous puiserez, tu puiseras aux sources du salut. Tu puiseras là où il y a une source. Alors, on l'a lu dans Ésaïe. Est-ce que je veux puiser? Vous vous rappelez quand le pasteur Falzon est venu, la conclusion de son message? Qu'est-ce qui se passe devant? C'était magnifique. Moi, j'écoute quand même pasteur de passage, parce que j'écoute pas souvent des prédications, donc ça fait que quand même pasteur prêche, j'écoute, je vous le dis. Regardez, psaume 114, on revient en arrière. C'est un psaume qui rappelle les combats que l'on peut avoir, les expériences que l'on peut faire. Et il termine au verset 7 et au verset 8. Regardez, psaume 114, verset 7 et 8. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Qu'est-ce qui fait le Dieu, notre Seigneur? Il change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Vous le croyez, ça? Vous vous rendez compte? Dans une version, j'ai lu le granit. Du granit. Il change le granit en une source d'eau. Si vous ne le croyez pas, bien sûr, c'est... Mais on doit le croire. Parce que vous connaissez ce verset que Paul a dit aux Romains. Mais si Dieu nous a donné son Fils, si Dieu nous a donné son Fils au calvaire, si Dieu nous a donné son Fils à la croix pour qu'on obtienne le pardon des péchés, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Est-ce que vous le comprenez, ça? Si le Seigneur a fait le plus, il peut faire le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Vous connaissez ce proverbe. Et il ajoute, dans Romains 8, que direz-vous à l'égard de ces choses? Parce que c'est bien une prédication. Mais qu'est-ce que j'en dis? Mais c'est vrai, si tu as donné ton Fils au calvaire, si tu es mort sur le bois de la croix, tu as accepté des choses incroyables pour nous sauver, ben alors combien plus forte raison, tu peux faire le reste. Un temps de rafraîchissement. Moi, j'ai besoin d'un temps de rafraîchissement. Je veux que mon âme soit rafraîchie. Vous connaissez le psaume 23? Le psaume 23, vous le connaissez. Vous pourriez me le citer, le verset 2? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ouais, vous restez. Vous le croyez, ça? Si Dieu est votre berger, il va vous conduire, il va vous diriger près des eaux paisibles. C'est ça qu'on a besoin. Et qui c'est qui veut l'expérimenter? Parce qu'il y a un acte de foi à faire. Est-ce que vous y croyez, vous, à ces temps de rafraîchissement? Ces temps où la seule, dans la présence de Dieu, je me plonge et je me replonge. Vous connaissez l'histoire du roi de Syrie, Naaman? Vous connaissez son histoire? Vous la connaissez, l'histoire du roi de Syrie? C'est une histoire, moi, ça me fait du bien de la lire. Je la lisais ce matin. Vous savez, le roi de Syrie, un jour, en se regardant certainement dans la glace, il se rend compte qu'il a la lèpre. Une petite servante va lui dire, si tu connaissais le prophète qui est en Samarie, tu irais et il te guérirait. Donc lui, c'était la deuxième personne du territoire, du pays. En plus, Dieu avait utilisé la Syrie pour faire gagner une guerre contre Israël. C'était improbable. C'était pas possible. Mais lui va y aller. Alors il dit, mais je vais faire une lettre au roi. Il va voir son roi. Il dit, écoute, je vais faire une lettre au roi. Le roi, il se met en colère, mais tu aurais jamais dû faire ça, etc. Ils vont considérer ça comme une provocation, etc. Il y va, il prend des milliers d'euros. Des millions. Il calcule, etc. Voilà, je me présenterai devant le prophète, tatati, tatata, et il posera sa main sur moi, il tremblera, il bougera. Vous connaissez l'affaire, hein? Puis il arrive avec ses officiers, ses serviteurs. Ce prophète, il n'est même pas sorti. Il envoie un de ses serviteurs, il dit, voilà, tu vas dans le Jourdain, tu te plonges 7 fois dans le Jourdain. Et il dit, non mais qu'est-ce que c'est ce travail? Non mais n'importe quoi. Les fleuves de la Syrie sont quand même aussi propres que ceux d'Israël. Je vois pas l'intérêt. Et il s'en va. Il se met en colère. Et puis heureusement qu'il avait des serviteurs intelligents. Et il y a un de ses serviteurs ou de ses serviteurs qui lui disait, mais écoute, si t'avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait? Alors fais-le. Et il se ravise et il va se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et à la 7e fois, il est ressorti guéri. Ces histoires, elles sont là pour notre instruction. Je ne sais pas, peut-être que le 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que je me plongerai dans la parole de Dieu le nombre de fois qu'il faudra. Et ça marchera. Et si ça n'a pas marché, c'est parce que moi aussi j'ai fait le malin. Et j'ai dit, pourquoi? Parce que si Dieu nous demandait des choses difficiles, parce qu'il lui aurait dit, donne-moi tes millions d'euros que tu as dans tes sacoches. Est-ce qu'il l'aurait fait? Oui, il l'aurait fait. Et nous on est là avec nos petits calculs, c'est pas bon ça. La grâce, c'est qu'on mérite rien. Il n'est pas dit, si vous méritez, demandez. Il est dit, demandez. Nous, on est là avec tout le temps nos calculs. C'est vrai qu'on a été pétris par la religion, pétris par la tradition, par des chrétiens légalistes. Il te faut faire ci, il te faut faire ça, ou il te faut jeûner, ou il te faut faire ceci. C'est pas vrai. La grâce, c'est une faveur imméritée. Il n'y a rien à calculer. Si le Seigneur vous dit, plonge-toi dans la parole de Dieu le nombre de fois qu'il faut, et le Seigneur te rafraîchira, eh bien, mettez Dieu à l'épreuve. Essayez. Mais les gens, ils se plongent pas devant la présence de Dieu. Ils se plongent dans Google, ils se plongent dans Facebook, j'en sais rien. Ils se plongent dans les choses du monde, et après ils s'étonnent que le monde les a desséchés. Heureusement qu'il y a des gens intelligents qui nous encouragent à nous plonger dans la présence de Dieu. Les serviteurs d'Aman, il y en a partout. Béni soit Dieu. Des gens sages qui nous encouragent à nous plonger dans la présence de Dieu. Plongez-vous-y. Si ça suffit pas 10 fois, eh bien 11 fois. Combien de fois ils ont fait le tour de Jéricho? Qui c'est qui a 17? Il y a quelqu'un qui a 17, j'ai entendu 17. C'est Rosana qui a 17? Je veux savoir. 13 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi 13? Pourquoi 13? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas une? Parce que ce qu'on n'obtient pas la première fois, on obtient la deuxième. Ce qu'on n'obtient pas la 6e fois, on peut l'obtenir à la 13e. C'est ça la foi. Il faut persévérer. La foi, c'est extrêmement lié à la persévérance. Il y a un fleuve. On le chante des fois. Je ne le chante pas, moi, parce qu'il est tellement haut, ce cœur. Il faudrait le chanter d'un demi-ton. Il est un fleuve, vous savez. Là, je le chante à mon ton. Il est un fleuve. Il est tiré d'un psaume. Coulant du cœur de Dieu. Il est beau, ce cantique. C'est le psaume 46. On le lit? On a les psaumes. C'est un psaume extraordinaire. On en a plein de cantiques sont liés à ces fleuves, à ces sources, à cette mer, à ces ondes, etc. Dans le psaume 46, on pourrait le chanter, mais il faudrait que vous me le chantiez tout à l'heure avec un demi-ton de moins. Sinon, je m'égosille et ça fait peur. Psaume 46. Regardez ce psaume. Dans l'épreuve en plus, hein. Verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Il y a un fleuve. Vous ne le voyez pas. Il n'est pas géographique. Il n'est pas physique. Il n'est pas palpable. C'est un fleuve d'eau vive. C'est un fleuve spirituel. Et quand vous vous approchez de Dieu et que vous vous plongez par la foi dans sa parole, le Seigneur est capable de vous rafraîchir. Vous avez lu, pourquoi j'ai pris l'histoire d'Agar et d'Ismaël? Vous avez vu cette histoire? Elle est merveilleuse, cette histoire. Elle est merveilleuse. Les circonstances font que, paf, je me retrouve dans un désert. C'était conduit par Dieu, tout ça, c'est compliqué, mais ça peut arriver. Dieu peut nous conduire dans un désert. vous l'acceptez ou pas, de toute façon, ça ne change rien. Ça peut arriver. Et vous avez vu ce qui se passe? Elle met son enfant à une centaine de mètres parce qu'elle ne veut pas voir son fils mourir, elle ne veut pas entendre son fils pleurer, etc. Donc elle est là, elle se recroqueville, elle est en train de mourir. Et l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briller. C'est pour ça, ça vaut la peine d'enseigner nos enfants ou nos petits-enfants quand on les a à la maison. Dieu entendit la voix de l'enfant. Moi, je trouve ça merveilleux. Dieu entend la voix de l'enfant. Dieu veille sur ces moments pénibles qu'on traverse. Et à un moment donné, il faut savoir prier comme Ismaël ou comme Agar, comme Samson, ou comme on l'a vu dans Isaïe 12, à chacun de nous de prendre considération. Voilà. Et Dieu va entendre. Et quand Dieu répond, qu'est-ce qu'il fait? Il lui ouvre les yeux et qu'est-ce qu'elle voit à côté d'elle? Vous l'avez lu avec moi tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle voit? Un puits. Alors, il y était ce puits ou il n'y était pas? Il y était. Mais ouais. Ça fait pitié. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Il y a à côté de nous, toujours à côté de nous, toujours cette source. Oui ou non? N'importe où, elle y est. Seigneur, fais-moi grâce. N'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel endroit, n'importe où quelqu'un se trouve sur la terre, n'importe où, il peut dire au Seigneur, je t'invoque, je te connais, ou je te connais pas bien. C'est sûr que plus on le connaît, mieux c'est sûr. Mais il est là, ce puits, il y est. Il y est depuis quand? En tous les cas, depuis que le calvaire a été signé, je peux vous dire que ce puits existe. D'ailleurs, une des paroles de Jésus sur la croix, moi, ça m'a toujours étonné parce que c'est clair. Quand Jésus a dit « j'ai soif », alors Jésus, de quoi il avait soif? Moi, je crois qu'il avait soif de nous avoir avec lui. Parce que ce n'est pas du tout le genre du Seigneur de se plaindre et de réclamer quelque chose pour lui. Mais cette parole, elle est spirituelle et bénie. Il a soif de nous avoir à ses côtés. Ça vous intéresse d'être à côté de lui? C'est ce qui lui fait le plus plaisir. À moi, ma présence? Eh bien oui. Dans la sainteté, dans l'obéissance? Eh bien oui, c'est la chose qui lui fait le plus plaisir au Seigneur. De vous avoir avec lui dans sa présence, non pas pour demander, quoi qu'il faut demander, mais pour le plaisir d'être avec lui. Que Dieu nous ouvre les yeux. N'attendons pas d'être comme Samson. On y revient à Samson dans les juges? On y revient pour terminer? Il a un combat, il est rempli du Saint-Esprit, donc une mâchoire d'âne, ça suffit. Comme quoi, vous voyez, quand on est rempli du Saint-Esprit, quoi que ce soit qu'on utilise, Dieu le bénit. Oui, cet âne, quand il était vivant, il ne devait pas s'imaginer que quand il serait mort, sa mâchoire servirait autant. Non? Ben oui, c'est vrai ou non? Ça vous fait rire? Ben c'est la vérité. Donc, verset 18, pressé par la soif. Peut-être que c'est votre cas ce soir. Peut-être que vous êtes pressé. Ça vous est jamais arrivé de manger salé, de la charcuterie, de bons trucs, enfin, ou des nems trop salés, etc. Et dans la nuit, vous vous réveillez et vous avez soif. Ça vous est jamais arrivé d'être pressé par la soif? Hein? Mais spirituellement, c'est bien quand on est pressé par le Seigneur, j'ai soif. J'ai vraiment soif de paix. Et qui peut vous donner la paix? Le prince de la paix. Qui c'est le prince de la paix? C'est votre pasteur, non? Non? Non, ah non, pardon. C'est le grand pasteur, notre Seigneur Jésus. Nous, c'est bien de procurer la paix, heureux ceux qui procurent la paix, mais on peut être entouré de gens qui l'ont pas, oui ou non? Mais le Seigneur, il l'a toujours. Il est le prince de la paix. Même avant de mourir, avant d'aller sur la croix, il a dit, je vous donne ma joie. Pressé par la soif, verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Mais n'attendez pas d'être pressé, n'attendez pas d'être découragé, n'attendez pas d'être dans une épreuve terrible. Quoique 9 personnes sur 10 en sont toujours là. Même quand tout va bien, prenez courage. Même quand vous êtes désaltéré, continuez à vous rafraîchir. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Pourtant, c'était le résultat de complications. Vous voyez, Dieu aurait pu dire, écoute, tu l'as bien cherché. Il n'y a pas des fois où Dieu pourrait nous dire, tu l'as bien cherché? Heureusement que le Seigneur ne fait pas comme nous. Hein. Et Dieu entend. Il fait verset 19. C'est beau quand même. Vous imaginez-le, visualisez-le. Dieu fendit la cavité du rocher. Il en sortit de l'eau. Et on a appelé cette source En Akoré. Elle existe encore aujourd'hui. En Akoré, si vous avez la traduction dans la Bible, ça veut dire la source de celui qui invoque. C'était le titre de ma prédication. En Akoré, ou la source de celui qui existe. Et il est écrit, elle existe encore aujourd'hui. Alors cette parole qui revient de temps en temps dans l'Écriture nous rappelle que cette source, elle existe. C'est le Seigneur Jésus. Cette source, elle existe. Alléluia. Ce soir, vous pouvez rentrer chez vous, vous enfermer dans votre chambre, ouvrir le Saint-Livre, reprendre les textes et dire, je vais prendre les textes sur les fleuves, sur les torrents d'eau, sur les sources d'eau vive, je veux vivre ce que Samson a vécu. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Non. Ce que Agar a vécu, ou Ismaël, ce que Samson a vécu, ce que Esaïe a vécu, on pourrait les citer tous, ils sont tous très nombreux. Tous les véritables chrétiens ont bu à cette source d'eau vive. Alors n'attendez pas d'être pressé, n'attendez pas, cette source, elle existe. Alors moi je voudrais terminer avec cette grâce, vous voyez quand il est dit, son esprit se ranima. Seigneur, il le sait si notre esprit a besoin de se ranimer. Vous vous rappelez quand les disciples étaient dans la tempête, ils avaient de la difficulté à ramer. Je ne sais pas si elle vient de là, l'expression « je rame », mais en tous les cas, ils avaient de la difficulté à ramer. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Et vous avez... Comment? Il les a rejoints. Il les a rejoints. Il vit. Vous savez que le Seigneur, il vous voit. Ça vous rassure pas? Il vit qu'ils avaient de la difficulté à ramer. Le Seigneur, il nous voit. Il voit si on a du mal à avancer. Il va leur dire, où est votre foi? Il pose une question pour qu'on dise, mais c'est vrai, après tout, je pourrais arrêter cette tempête. En invoquant la grâce de Dieu. On a besoin d'une parole de Dieu, vraiment une parole à propos. Vous savez, des fois, c'est des paroles toutes simples. Dieu pourrait dire, mais mon enfant, tu peux pas convaincre de péché ton fils, ta fille, ton père. Est-ce qu'on peut convaincre de péché quelqu'un? Personne. Qui c'est qui peut convaincre de péché? Le Saint-Esprit. Alors, laisse-moi faire, invoque-moi. La conclusion de cette exhortation... C'est de laisser le Saint-Esprit nous dire, mais ce que tu peux pas faire, moi je le fais, dit le Seigneur. Mais invoque-moi et ne doute pas. Il y a des choses, on ne peut pas les faire. Est-ce que vous pouvez protéger vos enfants 24 heures sur 24? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas avec eux, parce qu'il faut qu'on dorme. Vous voyez, on aimerait nous protéger les gens qu'on aime tout le temps. Est-ce que c'est normal qu'une maman veuille protéger ses petits? Oui ou non? Bien sûr, mais elle ne peut pas. Mais le Seigneur, il peut te dire, moi je veille sur tes enfants. Invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Mais attendons pas d'être dans la détresse. Invoque-moi tous les jours. Alors je termine avec un verset. Psaume 96, verset 6. On le lit. Il y a des textes merveilleux dans la Bible. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Psaume 96, verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Et s'il faut recenser tout ce style de verset, on va avoir du travail. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Oui. Invoque-moi, il y a une source pour celui qui invoque. Aimez invoquer le Seigneur. Ne doutez pas. Dès que vous ouvrez votre cœur, surtout pour parler, pour lui parler, parce qu'on peut parler dans le silence, il entend. Gloire à Dieu. Vous le croyez que la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire? Ouais. Vous voyez comment il s'est occupé d'Agar? Parce que il l'aimait. Quand Abraham l'avait rejeté, elle aurait pu dire, mais si Abraham me rejette, Dieu me rejette. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne rejette personne. C'est nous qu'on s'éloigne de lui. Il y a une source pour ceux qui invoquent. Alléluia. C'est bien? Vous le croyez? Invoquez-le joyeusement. Il est un fleuve. Ce fleuve-là, ça ne ressemble pas au fleuve de la sécu, je vous le dis. C'est le fleuve de Dieu. Il est plein. Alléluia. Vous le croyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut être une source de bénédiction? Vous avez envie d'être une source de bénédiction? Vous avez envie, quand vous passerez devant Dieu, parce que ça va nous arriver, vous aimeriez que Dieu vous dise, tiens, Emmanuel, sur la terre, tu as été une source de bénédiction. Ça m'a réjoui. Ça vous convient? Jonathan, ça te conviendrait aussi? Olivier, vous aimeriez que Dieu vous dise quelque chose de ce style? Tu as été une source de bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut. Il a le pouvoir. Dans son trône, il y a toutes ces choses. La guérison, l'onction, la paix. Vous avez vu dans ce monde, avoir la paix aujourd'hui, c'est presque... C'est miraculeux. Oui ou non? Et on peut l'avoir, vous pouvez rentrer chez vous dans la paix. C'est pas merveilleux? Vous puiserez l'eau est liée, la grâce est liée, tout y est. Mais vous puiserez. Et il donne une émotion en plus. Il y a de quoi. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Alléluia. On ferme les yeux quelques instants. On demande à Dieu de nous aider. Est-ce qu'on peut lui demander? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Moi, je crois que oui. Notre Père, merci pour ta parole. Oui, nous croyons que dans ta présence, il y a un fleuve d'eau vive. Et que ces fleuves peuvent jaillir de nos seins. Comme Samson t'a invoqué, comme Agar t'a invoqué, ou Ismaël surtout, ben nous t'invoquons, Seigneur. Et nous te remercions pour ce fleuve, toujours là, toujours être conduit près de ces fleuves. Seigneur, suscite la soif, suscite-la. Tu vois ce texte qui peut même nous troubler, que ces Juifs qui ont abandonné cette source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées. Tu vois dans ce pays tous les chrétiens qui ont abandonné la source d'eau vive. Seigneur, même si cela nous dépasse, nous en déduisons qu'il y a un combat, Seigneur. Amène-les à rechercher cette source. Parce que tu es un Dieu de grâce et de miséricorde. Que la gloire est devant ta face. Que il y a auprès du trône cette grâce, cette miséricorde, cette grande miséricorde. Seigneur, suscite la soif dans ce pays, dans toutes les églises. Suscite la soif de ta parole, afin que ces temps de rafraîchissement soient notre partage, afin qu'à notre tour, nous puissions y être des sources de bénédiction. Amen.